Thank you so much. Faut que je trouve mon micro. Ouais, moi j'ai un micro. Oh. Ah voilà. Oui, alors, il m'a semblé qu'il était intéressant que vous ayez, enfin, qu'on essaye de tricoter ensemble un double objectif. Première partie de l'objectif, avoir une espèce de réflexion méta sur l'outil avec lequel vous allez théoriser vos différentes cliniques. Pourquoi ? Parce que l'outil n'est pas neutre. Parce que l'outil a des implicites. Parce que parfois, on utilise l'outil conceptuel sans s'apercevoir qu'il charrie en même temps toute une série de présupposés et qu'on se retrouve un certain nombre de fois dans la situation d'être plus ou moins en panne dans le processus de réflexion. Et que la panne provient d'un certain nombre de présupposés implicites. Bon, je vous donne tout de suite un petit exemple, deux petits exemples. Dans la théorie de Melanie Klein, on est sans arrêt en train de raisonner en termes de projection, d'introjection, mais il n'y a pas, dans la théorie de Melanie Klein elle-même, de réflexion sur la limite. Alors, c'est pas mal de travailler sans arrêt sur le dehors et le dedans, sans qu'on sache comment le dehors et le dedans sont délimités. On peut avoir des réponses. Les réponses vont venir de post-kleiniens comme Esterbik, mais dans la pensée de Melanie Klein, il n'y a pas de théorie de la limite. Et la théorie d'Esterbik, c'est une théorie d'une catégorie peau, si je puis dire. C'est pas une catégorie psychique, c'est une catégorie peau. Voilà. Bon. Deuxième type d'exemple, dans la théorie du narcissisme de Freud, il est bien possible qu'il y ait un postulat narcissique. Peut-être la théorie soit elle-même narcissique. C'est-à-dire, alors à ce moment-là, quand on veut penser des problématiques narcissiques, si on les pense avec une théorie qui elle-même a des implicites narcissiques, à bout d'un moment, on aboutit à des hyper-sophistications théoriques ou à des impasses. Bon, voilà, bon. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'était de réfléchir avec vous sur ces implicites, les implicites d'un certain nombre de théories. Alors, cette réflexion sur les implicites, elle est aussi liée au fait que, pour la plupart d'entre vous, pour ne pas dire la totalité, vous êtes sur des types de problématiques cliniques qui sont dans un rapport étrange avec la pensée psychanalytique traditionnelle. Le rapport étrange, c'est qu'en gros, la pensée psychanalytique traditionnelle, elle a été construite pour penser, pour dire vite, les économies névrotiques. Un petit peu d'avancée autour de problématiques psychotiques perverses, mais elle est quand même massivement organisée autour de la pensée. Or, d'une certaine manière, vous n'êtes pas, vous, en train de travailler avec des problématiques névrotiques. Alors on est dans une espèce de situation un peu paradoxale dans la théorisation, c'est qu'on utilise la théorie qui est disponible, mais la théorie qui est disponible, elle est sans arrêt interrogée par l'objet sur lequel elle s'applique. Ce qui fait que l'objet avec lequel on travaille va avoir une espèce d'interrogation permanente sur le fond de la théorie. Donc ça, c'est intéressant d'utiliser cette espèce d'effet rétroactif, en quelque sorte. C'est en même temps peut-être un outil de recherche intéressant au plan conceptuel. Hein, parce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, quand on regarde comment l'évolution de la pensée psychanalytique s'est effectuée, donc elle se structure autour de l'adulte, homme, plutôt homme, même femme, ça peut aller, moyen, névrosé, plutôt blanc, plutôt occidental, etc. Elle se structure autour de ça. Et comment elle va rebondir? Ben, elle va rebondir avec Mélanie Klein qui dit, tiens, et si on pensait l'enfant? Ah, c'est pas prévu. C'est pas complètement non prévu par Freud. Il y a le petit Hans qui traîne, mais on ne peut pas dire que sa théorisation inclut la problématique de l'enfance. Bon. Deuxième grand promoteur, Jung. Jung, c'est quoi? C'est les groupes et la psychose. Troisième grand promoteur, Winnicott. Winnicott, c'est les bébés. Là, quand on regarde comment, sous quel type de pression et avec quel type de problématique l'évolution de la psychanalyse s'est faite, on s'aperçoit que c'est avec toute une série d'objets qui ne sont pas les objets classiques, en quelque sorte, avec lesquels la théorie s'est structurée. Ce qui fait que ce n'est pas très étonnant que, d'une certaine manière, Winnicott oblige à ce qu'on pourrait appeler une évolution paradigmatique. C'est pas très... Parce que il y a bien une pensée du bébé chez Winnicott, parce que c'est une pensée reconstruite. C'est le bébé tel qu'il apparaît dans les cures d'adultes névrosés. Chez Mélanie Klein, il y a bien une pensée du bébé aussi, mais c'est le bébé tel qu'il apparaît chez les enfants. Il n'y a que Winnicott qui, parce qu'il a 70 000 consultations de pédiatres, quelque chose comme ça, c'est considérable, ils nous font rire, les psychologues expérimentalistes. J'ai 30 cas, 70 000 consultations. Quand même, c'est quand même un peu autre chose. Moi. Donc, 70 000 consultations de pédiatres, il a une certaine connaissance du bébé, non pas en tant que le bébé reconstruit à partir de la cure d'adulte, à partir de la cure d'adolescent, mais en direct. Et cette autre démarche, elle a aussi des effets de déconstruction d'un certain nombre de postulats ou d'implicites, effectivement, de la théorisation reconstruite. Si vous voulez, le problème, c'est que la démarche de reconstruction, c'est une démarche, modèle les saumons qui tentent de remonter à la source originelle. Vous savez que les saumons vont pondre sur les lieux origines de la source. De temps en temps seulement, il y a des énormes cascades. Et les saumons, ils ne peuvent pas nécessairement monter et remonter toutes les cascades. Bon, ouais. Si vous avez des ruptures dans un processus de développement, ce sont des cascades. Et vous ne pouvez pas nécessairement, à partir d'une démarche de reconstruction, reconstruire en quelque sorte les origines lorsqu'il y a eu des phénomènes de rupture ou des phénomènes de réorganisation qui sont tels que ça se présente comme une cascade insurmontable pour les saumons. Donc on a un certain nombre comme ça de difficultés dans la démarche reconstructrice, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, c'est les gens qui ont d'une certaine manière une clinique directe d'un certain nombre de questions, comme celle de la psychose, comme celle de la première enfance, comme celle de l'enfance, qui vont être des promoteurs de révolution ou d'évolution paradigmatique, c'est-à-dire qui vont réinterroger inévitablement l'objet, l'objet étant ici la théorisation. Et quand on essaye de regarder sous quel... Alors, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que d'une certaine manière, la reconstruction que je tente de faire à partir d'une clinique de la névrose, elle est sûrement assez éloignée de ce qu'ont été les données premières. La représentation de la première enfance que vous avez chez Freud est très loin, suffisamment loin, on va dire, hein, suffisamment loin de la représentation que l'on peut se faire de la première enfance quand on parle de Winnicott ou quand on parle des psychologues ou des cliniciens du premier âge. Là aussi, pour des raisons qui sont tout à fait évidentes et qui sont liées à ce que j'évoquais tout à l'heure à propos du narcissisme. Dans les problématiques narcissiques, il y a un processus qui est tout à fait important, qui a été mis en évidence par de nombreux auteurs, Pierre Hollanier et d'autres, qui s'appelle l'auto-engendrement. C'est-à-dire que le narcissisme a, dans sa structure même, un mouvement pour essayer d'effacer la question de son origine et la question de ce qui est dû à l'autre. C'est ça l'auto-engendrement, d'une certaine manière. Bon. Alors ça a été mis en évidence dans la psychose, par Pierre Hollanier, Mais c'est pas commis. Alors, c'était de toute évidence, si vous voulez, dans la psychose, puis vous avez des tas de délires filiation, qui sont des tas de délires, qui sont des tas de théorisations de l'origine, qui sont des théorisations de l'origine sur des modèles qui ne sont pas organisés suivant le canon de la scène primitive névrotique, mais qui sont organisés. Une cellule se divise en deux. Qui ne sont pas des théories d'un engendrement. D'une différence des sexes qui engendre une différence des générations, qui engendre une différence entre le sexuel infantile et le sexuel adulte, en gros, pour dire les choses vite. Hein. C'est-à-dire cet engendrement de la différence des sexes, qui produit une différence des générations, qui produit un enfant qui lui-même pose le problème de la différence entre une sexualité infantile et une sexualité adulte. On voit comment ça tourne, cette histoire, si je puis dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation édipienne. Elle tourne autour de ces éléments-là. Eh bien, là, on a, dans la toute première enfance, et dans nombre de vos cliniques, des problématiques qui n'obéissent pas du tout à ce modèle-là. Et elles n'obéissent pas à ce modèle-là, pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui s'efface, qui efface. Donc, dans leur... Quand on tombe sur une organisation narcissique, une des caractéristiques de l'organisation narcissique, alors, par exemple, prenons un exemple simple. Vous avez un monsieur qui dit « ce qu'il y a en moi, c'est moi ». Voilà une position narcissique. J'ai un moi-pot, mon moi-pot c'est un sac, ce qu'il y a dans le sac, c'est moi, puisque ma définition de moi, c'est ce qu'il y a dans le sac. Le problème, c'est comment c'est venu dans le sac. Et quand vous dites « ce qu'il y a dans le sac, c'est moi », d'une certaine manière, vous vous identifiez à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, sans poser la question de savoir quelle est l'origine de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il faut commencer à voir où j'en suis. Or, si ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ça a été fait par intromission, comme dit la planche, par intrusion, si ça a été fait par incorporation défensive, vous comprenez bien que ce n'est pas du tout pareil que si ça a été fait à la suite d'un long processus d'intériorisation, symbolisant, métabolisant, etc. etc., etc. On n'est pas du tout dans le même monde. Donc autrement dit, une définition narcissique du style moi-peau qui dit le moi se définit comme un sac et tout ce qui est à l'intérieur du sac c'est le moi, est une définition narcissique qui estompe, qui efface la question de l'origine et des processus par lesquels ce qu'il y a à l'intérieur a été mis à l'intérieur. Ce qui fait qu'après, il faut faire des cliniques différentielles. Est-ce que c'est une clinique de l'identification? Alors après, on a un mot valise, on dit « Ah oui, non, mais d'accord, dans le moi, il y a aussi des identifications. » Voilà le mot valise. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a des identifications, et qu'on dit rien de plus, ça veut dire qu'on met ensemble une identification symbolique, une identification hystérique, une identification incorporative, une identification introjective, une identification endocryptique. Quand on dit c'est par identification et qu'on précise pas plus, ça veut dire qu'on a un package, là aussi on a une identification moi-peau, et que tout ce qui est dans l'identification est mis dedans. Bon. Et on s'aperçoit qu'en fait, entre une identification incorporative, une identification introjective, une identification endocryptique, il y a des abîmes. Et tout ça, on va le nommer de la même manière. Bon. Alors, j'essaye de vous faire sentir pourquoi je m'interroge sur ce qui est sous-jacent au processus de théorisation. Et pourquoi je vous propose que nous fassions quelque chose qui serait une opération épistémologique complètement baroque et paradoxale, qui serait de faire une clinique de la théorie. Alors, faire une clinique de la théorie, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de mettre en évidence quels sont les présupposés implicites qu'il y a derrière un processus de théorisation. Par exemple, présupposés implicites de la théorisation du narcissisme, c'est que le narcissisme, ça concerne le sujet. Or, tout porte à penser que notre mais toute la clinique contemporaine de la première enfance, toute une partie de la clinique contemporaine des problématiques narcissiques, identitaires, et de toutes les souffrances narcissiques, montre que c'est pas du tout vrai. que le narcissisme ne se pense bien que si on pense l'objet. C'est-à-dire que si on pense comment et par quel processus, à la suite de quelle rencontre, dans quel mouvement, ce qui est à l'intérieur est à l'intérieur. On pourrait dire de manière très très rapide, la position narcissique, c'est de dire ce qu'il y a dans mon sac, c'est moi. La position déconstructive serait de dire entre moi et moi, il y a l'objet. Donc, je me suis construit dans des processus de réflexion par l'autre. Alors, les poètes, comme d'habitude, l'avaient bien dit. C'est Rimbaud, hein. Je est un autre. Le sujet est aussi le fruit du reflet de l'autre par l'autre. C'est le fruit d'un processus d'appropriation de quelque chose qui vient d'ailleurs. On peut dire d'une manière très simple, je me vois comme j'ai été vu, je me sens comme j'ai été senti, je m'entends comme j'ai été entendu. Mais je ne sais pas ça. Donc je crois que je me vois comme je me vois, je crois que je m'entends comme je m'entends, et je crois que je me sens comme je me sens. C'est-à-dire que j'estompe dans ce raccourci des problématiques narcissiques, j'estompe quelque chose de cette réflexivité par l'objet. Donc ça a été une première source de bouleversement et de réinterrogation de la théorie. On s'est aperçu dire que la théorie du narcissisme a un fond narcissique, c'est d'une certaine manière déconstruire les implicites de la théorie du narcissisme en tant que la théorie du narcissisme estompe aussi d'une certaine manière la place de l'objet dans la construction du narcissisme. Alors il est bien évident qu'au bout des moments on aboutit à des impasses cliniques. L'impasse clinique, c'est que si vous voulez penser un sujet et penser le narcissisme d'un sujet en pensant le sujet dans son rapport à lui-même, il y a un moment donné vous allez vous mettre à tourner en rond. Pour une raison très simple, c'est que ça ne débouche jamais sur autre chose que ça. Une des pentes, par exemple, une des difficultés majeures actuellement de la théorisation de l'autisme, c'est que d'une certaine manière, elle est aussi autistique. Alors, ça, c'est pas un hasard, c'est lié à quelque chose qui est une loi épistémologique, mais une loi épistémologique qui est tout à fait particulière à la clinique. Et à la théorisation psychanalytique. La loi épistémologique est la suivante. L'objet sur lequel porte la clinique pénètre la clinique. Alors, elle pénètre, alors on va le dire dans vos termes, c'est l'objet sur lequel porte la recherche pénètre la recherche. Et l'objet sur lequel porte la recherche pénètre la recherche de trois manières différentes. Premièrement, l'objet de la recherche pénètre le dispositif de la recherche. Bon, ça c'est clair, c'est évident. Je ne peux pas travailler dans un dispositif pour une problématique névrotique de la même manière pour une problématique autistique. Il y a un impact fondamental, inévitable, de l'objet sur lequel porte ma réflexion sur le dispositif que je mets en place pour approcher cet objet. Bon, le jour où les SDF iront s'allonger 4 fois par semaine sur les divans des psychanalystes, on pourra faire une psychanalyse avec un dispositif classique de psychanalyse des SDF, sauf qu'ils ne seront plus SDF. Si vous voulez travailler avec des SDF, il faut aller sur les trottoirs. Il faut aller dans les squats. Et votre dispositif, inévitablement, bon, il faut en déambuler éventuellement avec eux. Bon. Si vous voulez travailler sur les adolescents de banlieue, il n'y a pas de problème. Il faut aller dans les banlieues, il faut aller dans les allées, il faut là aussi marcher et savoir comment on marche à côté d'un adolescent destroy. Bon. Vous voyez, le dispositif ne peut pas se mettre en place indépendamment de l'objet, mais ça veut dire que l'objet a un impact sur le dispositif. La règle a été formulée de manière extrêmement précise par un psychanalyste argentin. dans un article qui s'appelle « Le groupe dans l'institution et le groupe comme institution », qui est repris, je crois, dans « Symbiose et ambiguïté », c'est Bleguer, et Bleguer dit cette chose tout à fait importante et essentielle, c'est que les institutions s'organisent pour s'ajuster à l'angoisse dominante des objets qu'elles accueillent. Si vous travaillez dans le monde des prisons, dans le monde, enfin l'exemple même massif, c'est les éducateurs de la PJJ. Les éducateurs de la PJJ, je vais autant vous dire qu'il y a un tropisme à la délinquance qui est tout à fait important. Regardez toutes les histoires de flics qui sortent, c'est toute la problématique de ce qu'on appelle les ripoux. Mais c'est, est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Dans toutes les histoires, ou dans un très grand nombre d'histoires de passage à l'acte sexuel entre des patientes, des psys, des patients et des psys, dans un très grand nombre de ces histoires-là, il y a des problématiques incestuelles qui sont extrêmement présentes dans la problématique historique de la patiente ou du patient. Donc autrement dit, là aussi, on voit comment non seulement les dispositifs, mais les dérives de dispositifs se mettent en place. D'où toute la difficulté de la construction de vos dispositifs. Comment ne pas avoir un dispositif en abîme, Déborah, hein, et comment ne pas tomber dans l'abîme du dispositif, bon. Comment ne pas se perdre sur les bouts de trottoir, on est absolument en permanence dans ces... C'est-à-dire qu'on est obligé, pour approcher notre objet, de créer un dispositif qui non seulement tient compte de l'objet, mais laisse pénétrer l'objet dans le dispositif. Sauf que lorsque l'objet a pénétré le dispositif est tributaire en quelque sorte de ce qui lui a pénétré, de ce qu'il a constitué. D'accord ? Bon. Alors ça, c'est un... Alors, d'où l'intérêt des réflexions méthodologiques. Et d'où l'intérêt de faire une clinique de la méthodologie, de faire une clinique du dispositif. Vous voyez, quand je disais qu'on se meut en permanence dans un paradoxe, normalement, le dispositif, c'est ce qui permet de faire la clinique, or on est tout le temps conduit à faire aussi la clinique du dispositif. Pourquoi ? Parce que le dispositif nous parle de l'objet, il nous parle de la part de l'objet qui a inévitablement pénétré le dispositif. C'est extrêmement clair, si vous voulez, quand on reprend l'histoire classique de la psychanalyse. Freud emprunte les caractéristiques formelles premières de la psychanalyse à une de ses patientes qui s'appelle Emmy von Hein, et vous avez ça dans la séance du 8 mai 1883, vous trouvez ça dans les études sur l'hystérie. Ou à un moment donné, Freud est là, alors il est très médical, il dit, mais alors, et d'où vient que, et ceci, et cela, et la patiente l'envoie prendre en lui disant, ne dites rien, ne me touchez pas, ne bougez plus. Et vous avez cette phrase extraordinaire de Freud, qui est une phrase fondatrice, il dit, j'y consens. Ce consentement-là, c'est dire, je consens que la situation soit organisée par les caractéristiques cliniques de la patiente. Bon. Alors il travaille avec d'abord un dispositif qui est un dispositif très hystérique. Il pose la main sur le front, il touche, il enlève la main, quand il enlève la main, les pensées viennent, enfin il y a tout un truc comme ça. Relisez, il décrit ça très très bien dans l'article qui s'appelle Psychothérapie de l'hystérie. Relisez comment il fonctionne en lien direct, en quelque sorte, avec les patientes avec lesquelles il fonctionne. Bon. Le problème, c'est que notre Freud, au bout d'un moment, il va tomber sur des obsessionnels. Mais alors là, il est en grande difficulté, ces obsessionnels, avec un dispositif qui a été construit pour les hystériques, avec une règle qui a été construite pour les hystériques. Pourquoi il est en difficulté? Parce que la règle qui a été construite pour les hystériques, c'est la règle de... Si vous dites à une hystérique, associez librement et dites tout ce qui vous vient à l'esprit, on tombe sur cette caractéristique qui est repérée par la psychopathologie du 19e siècle comme étant une grande caractéristique de l'hystérie. Au 19e siècle, on dit que les hystériques, elles sont associatives. Alors vous allez proposer une règle de l'association libre à des gens dont c'est le symptôme. Ça s'appelle le coq à l'âne maintenant. Hein. Bon. Et alors avec un obsessionnel, on est en très très grande difficulté par rapport à ce processus-là. Si vous lisez la séance, alors je m'excuse, c'est encore en mai, mais cette fois en 1907, des minutes de la Société psychanalytique de Vienne où Freud commence à parler de l'homora. L'homora, c'est une problématique obsessionnelle. Les premières phrases de Freud, c'est « le dispositif a changé ». Et comment... Alors, donc, je reprécise ce que je disais. Quand vous faites une règle de l'association libre avec une hystérique qui fait du coq à l'âne, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes complètement désorganisé. Relisez Elie von Hed, à un moment donné, Freud lui dit « Mais d'où vient que vous avez cette peur-là » Elle lui balance 40 souvenirs. À 5 ans, à 9 ans, il m'est arrivé ci, ils m'ont lancé des crapauds dans la gueule, etc. Et Freud est obligé de dire « Non mais taisez-vous, oubliez tout ça !» Donc, elle respecte la règle, mais on peut dire, bon. Alors, il a juste une petite remarque en disant, c'est drôle, c'est comme si les réponses étaient toutes prêtes. Donc, on voit bien que cette règle-là, s'il l'applique avec ses problèmes, donc, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire? Il va être obligé de transformer la règle. Et comment il va transformer la règle? En faisant, on reviendra dessus en détail, hein, c'est pour, j'introduis un peu le fil de ce qu'on va faire ce semestre ensemble. Il va introduire la règle suivante, il va dire, Attendez. Je vous dis un mot, vous associez dessus. Je vous dis un autre mot, vous associez dessus. Je vous dis un troisième mot, vous associez dessus. Ce qu'on appelle, ce que j'ai proposé d'appeler l'associativité focale. Focalisée, non pas dites tout ce qui vous vient à l'esprit, mais focalisons-nous sur tel élément. Si vous lisez le rêve de l'introjection faite à Irma, quel grand rêve qui initie, qui introduit toute la question du travail du rêve, le chapitre 6 et le chapitre 7 de l'interprétation des rêves, vous allez vous apercevoir que Freud découpe le rêve. Alors, en haut, nous recevons, toc, association, Irma, toc, association. Bon. Quand vous regardez les rêves, la manière avec laquelle Freud travaille les rêves de Dora, la cure de Dora, c'est 1899, c'est une règle qui est sans arrêt. Dora, il découpe les règles en petits les rêves en petits morceaux et il veut des associations sur chacun des petits morceaux. Pourquoi? Parce que si il libère l'associativité complètement de ses patientes, il est complètement rapidement noyé. Donc, contrôle. Mais avec les obsessionnels, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que les obsessionnels, ils souffrent de ce que Freud va appeler une névrose de contrainte. Et la névrose de contrainte, c'est quoi? C'est une contrainte à un certain type d'associativité. On peut dire que l'hystérie, c'est une associativité sans contrainte. Donc ça part dans tous les sens. Donc la contrainte, elle vient du dehors. Mais par contre, avec les névroses obsessionnelles, c'est une névrose de contrainte, donc il y a une contrainte interne. Ce n'est pas la peine de leur dire, associé sur tel élément et tel élément, dit Freud. Et quand vous lisez donc ce que je vous disais tout à l'heure, la séance de mai 1907 dans les minutes de la Société psychanalytique de Vienne, vous allez voir que Freud dit, la méthode a changé. On laisse maintenant le patient totalement libre de ces associations. Pourquoi est-ce qu'on le laisse totalement libre de ces associations? Pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a pas de coq à l'âne dans la névrose obsessionnelle. Il ne partira pas n'importe où. Il y a un fantasme qui contraint le patient. Et donc, ces associations vont nécessairement tourner autour de ce fantasme qui contraint le patient. Donc, vous voyez que et la règle, et la méthode, et la manière de travailler est étroitement dépendante de l'objet sur lequel on travaille. Vous utilisez la règle de l'association libre avec un enfant autiste, vous allez être mal. Ou avec un patient psychosomatique, si vous l'utilisez avec un patient psychosomatique, vous allez fabriquer cette espèce d'aberration conceptuelle qu'on appelle la pensée opératoire. Mais la pensée opératoire, ça n'existe pas, c'est l'effet, en quelque sorte, du plaquage d'un certain mode d'écoute sur un objet qui est hétérogène à ce mode d'écoute. Je me souviens quand j'étais au Minguette, à propos d'associations libres, j'étais avec un patient zappeur. Un patient zappeur, c'est quelqu'un qui est en morceaux. Et alors, il commence à vous dire quelque chose, donc vous commencez à investir ce qu'il vous dit, et puis au bout d'un moment, il a zappé, il a changé de chaîne. On est passé sur un autre fragment complètement différent, puis sur un autre fragment complètement différent. Si vous écoutez un patient en essayant de suivre la suite associative de tout ce qu'il vous raconte à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous explosez en morceaux. Et en fait, il faut passer à un niveau d'écoute méta et savoir comment ce monsieur... Je raconte un autre fragment avec un de mes patients psychotiques comme ça. Il arrive et il me dit, alors c'est un peu le modèle d'Emmy von Rennes, sauf que c'est très différent. À 8 ans, j'étais avec Paul et avec Pierre, on s'est promené et on est allé pêcher la truite. À 12 ans, il y avait Jean-Jacques, et alors avec Jean-Jacques, on a pris la voiture, c'est mon père qui conduisait, et on s'est retrouvé à faire un bout d'escalade dans la montagne. Mais il y a aussi à 4 ans, souvenir, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je vais vous expliquer ce que ça finit par donner. Vous allez, c'est pour essayer de voir comment la règle d'écoute doit s'ajuster d'une certaine manière avec notre objet. Bon, hein, il finit par... alors ça dure des séances et des séances. Alors il est un peu comme modèle Hébé Frédo qui était tonique, quoi. C'est mortellement ennuyeux et il énumère. Quoi. Et un beau jour, il finit par me dire... je commence à en avoir sacrément marre. Et il finit par me dire, et du style, du genre, et à 12 ans, avec Arthur, on s'est retrouvé dans un champ de blé, et on s'est caché dans le champ de blé. Alors là, d'un seul coup, ça me fait tilt, il s'est caché, je lui dis, et ici, vous vous cachez dans un champ de souvenirs. Tilt, là on se rencontre. Et alors après, j'apprends qu'avant chaque séance, il prenait... Les livres de photos de la famille, et il révisait. Il avait compris que la psychanalyse s'intéressait à l'histoire, donc il regardait toutes les photos, et il regardait les légendes de chacune des photos, et j'avais droit au compte-rendu de sa lecture des légendes de... Alors bon, on peut dire que c'est un système de contrôle, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il n'empêche que son associativité était commandée par ce dispositif-là. Hein. Vous comprenez? Bon. Alors donc, premièrement, pénétration agit dans le dispositif et dans la règle. Donc on ne peut pas ne pas faire une clinique du dispositif, voire une clinique de notre écoute. Ça a été théorisé, ça, par Heidefelberg, sous le titre « À l'écoute de l'écoute ». Écoutons-nous écouter, écoutons-nous prendre nos notes, écoutons-nous réfléchir. Mais vous voyez, on est dans la recherche, là. J'ai oublié de vous dire au passage que la recherche clinique, elle a une particularité. C'est simplement une clinique dont l'aspect recherche est formalisé. C'est-à-dire, il n'existe pas de clinique qui ne soit pas une clinique de recherche. Ça n'existe pas. Toute la clinique est tout le temps, inévitablement, une clinique de l'exploration et une clinique de la recherche. Fondamentalement. Le problème, c'est que la plupart du temps, ces recherches ne sont pas formalisées. C'est-à-dire que les cliniciens ne théorisent pas en quelque sorte leur clinique, c'est-à-dire ne formalisent pas leur recherche. Et que ce qu'on va essayer de faire ici à l'université, c'est vous aider non pas dans votre pratique clinique, parce que là, votre pratique clinique, elle est ce qu'elle est, mais on va vous aider à essayer de formaliser les éléments de la pratique clinique. Et formaliser les éléments de la pratique clinique, ça commence par se poser la question de savoir comment le dispositif que nous avons spontanément créé, mis en place, bricolé sur les lieux de travail, comment ce dispositif-là contient déjà un fragment, en quelque sorte, pénétré de l'objet sur lequel porte notre réflexion et notre recherche. Première pénétration agit dans la recherche. Deuxième niveau de pénétration agit classique, c'est dans ce qu'on appelle le compte transfert. Si une madame comme Paula Heymann a pu dire dans les années 56 que s'en faut, qu'il était absolument nécessaire d'être à l'écoute de son propre compte transfert, parce que le compte transfert renseignait sur le processus du transfert, si Paula Heymann peut dire ça, c'est parce qu'elle fait l'hypothèse implicite que le compte transfert contient un mode de pénétration de l'impact du transfert. Donc on est fondé à écouter quelque chose de notre compte transfert en fonction du fait que le transfert fait une pénétration agie dans l'état affectif du clinicien. Donc première pénétration agie dans le dispositif, dans la règle, dans les méthodologies d'écoute. Deuxième pénétration agie à l'intérieur de l'état affectif du clinicien. Exemple, toujours tiré de ma pratique, une maman méditerranéenne, volubile à souhait, elle arrive, elle parle, je suis complètement submergé, je veux prendre mes notes après, rien, pas un, je me sens complètement vide. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, cette femme, manifestement extrêmement dépressive, manifestement, on peut parler d'une espèce d'état maniaque en séance, que cette femme évacue à travers ce faux de parole, le transfert, il est là, elle évacue quelque chose d'un vide. C'est-à-dire qu'elle me constitue comme le lieu d'un manque, comme le lieu du vide, et d'une certaine manière, c'est moi qui suis. Donc mon grand transfert va me renseigner sur l'existence d'un processus évacuateur à travers toute sa volubilité associative. Apparemment, on a un matériel extraordinaire, extraordinairement riche, sauf que ce matériel extraordinairement riche, il est inutilisable et que, du point de vue de ma position clinique, de ma posture clinique, je n'ai rien à mettre sous la dent. Alors, elle est boulimique, évidemment, cette femme. Vous l'avez compris. On peut les multiplier les exemples. Je vous en donne juste quelques échantillons comme ça, hein, pour accompagner la réflexion, mais ça, c'est pour essayer de simplement d'exemplifier que nous utilisons quelque chose d'un aspect particulier de notre compte transfert pour essayer de comprendre un aspect particulier du transfert. Je vous rappelle au passage que le transfert, c'est un processus inconscient, que l'état affectif du patient dans la relation avec nous, ce n'est pas le transfert. Le transfert, c'est ce qu'il vient remettre en jeu inconsciemment d'un pan de son histoire. Donc, idem pour notre compte transfert. Notre compte transfert, ce n'est pas un processus conscient, délibéré, volontaire. C'est les gens qui arrivent en disant « Ah, alors mon compte transfert, il est ceci, il est cela. » Non. Si je peux en parler aussi facilement, c'est que ce n'est pas le compte transfert. C'est éventuellement ma réaction émotionnelle à la situation. Oui. Mais le transfert, le compte transfert strict, c'est ma réaction inconsciente au processus inconscient qui se transfère dans la relation avec l'autre. Ce qui veut dire qu'il va falloir un certain temps pour clarifier ce qui peut en être du compte transfert. Et là, dans un premier temps, moi, je suis complètement leurré par ma patiente. J'ai l'impression que j'ai un énorme matériel. Ce n'est que lorsque je commence à essayer de le cerner d'un peu plus près que je m'aperçois petit à petit. Bon, et après, je veux dire, de là en arriver à la conceptualisation que je vous ai proposée tout à l'heure, c'est-à-dire elle évacue un vide en moi et me constitue comme le lieu de son manque, bah, ça, là je vous l'ai fait en 2 minutes, mais il a fallu du temps, il a fallu tout un travail d'élaboration qui est passé par un travail de métabolisation de mon compte transfert. Deuxième mode de pénétration agit dans l'état affectif du psy, du clinicien. Troisième aspect de la pénétration agit de l'objet de la recherche, sur la recherche, eh bien, il y a une pénétration agit dans la théorie. Il y a une pénétration agit dans la théorie. C'est ce qui fait que je vous dis, il y a dans les grandes théories de l'autisme quelque chose d'autistique. Il y a dans les grandes théories du narcissisme quelque chose de narcissique. Il y a peut-être même dans les grandes théories de l'Édipe quelque chose d'incestueux. Ça serait où l'élément incestueux dans les grandes théories de l'Édipe ? Ben, je vais vous raconter comme ça. Page 105 des 3 essais sur la théorie de la sexualité, petite édition blanche de Gallimard. Page 105. Freud. Quand on voit un bébé s'éloigner, les joues rouges, l'air complètement béat du sein de sa mère, on ne peut s'empêcher de penser que c'est le prototype même de la satisfaction sexuelle dans tout le reste de la vie. Ah bon ? Donc, le prototype même de la sexualité, c'est un bébé au sein. Ça s'appelle comment ça ? 2 pages plus loin, donc page 107. Conclusion de Freud. Donc, la sexualité infantile est sans objet. La mère a disparu. Elle s'étaye sur un... Elle est auto-érotique. L'érotisme du sein dans la bouche, tout ça, ça disparaît. C'est sans objet. Et ça s'étaye sur l'autoconservation. Bon, c'est fini. Donc vous voyez que la théorie est construite pour contre-investir un élément incestueux qui est dans la pensée, je ne sais pas le bébé qui est incestueux, c'est Freud, disant c'est le prototype même de la, de la satisfaction sexuelle. Je vous dis encore une fois, j'apporte pas les livres, hein, mais on aurait le livre là, c'est frappant, deux pages d'écart, deux énoncés totalement contradictoires, l'un à côté de l'autre, à deux pages près, et un énoncé qui efface complètement ce que s'est dit le premier. Alors on comprend ensuite qu'on va le voir revenir, le père en question, ce père qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette relation incestueuse de mon enfant avec ma femme ?» On va le voir revenir, il s'appelle Père de l'ordre primitive, on le voit arriver quelques temps plus tard, et quand vous voyez la figure du père originaire que Freud propose dans le mythe de l'ordre primitive, bah, c'est un père jaloux, il évacue les fils, il tue les fils, il se paye les filles, bah, oui, c'est ce père qui est fondé, puisque les enfants sont ses rivaux. Constituer un enfant comme rival édipien incestueux, c'est une théorie incestueuse. Une théorie incestueuse, vous savez qu'est-ce qui va les caractériser? Qu'est-ce qui caractérise l'inceste? Ce qui caractérise l'inceste, c'est la confusion entre la sexualité adulte et la sexualité infantile. Il y a abus sexuel toutes les fois qu'on confond la sexualité adulte et la sexualité infantile. Mais... regardez d'un peu près la littérature psychanalytique. Quels sont les gens qui font une très claire différence entre la sexualité adulte et la sexualité infantile? Quels sont les gens qui incluent concrètement dans leur intelligibilité du cas une différence aussi massive? Alors il y en a un qui l'a fait très très massivement ces dernières années, enfin ces dernières années, c'était avant sa mort, c'est Laplanche. Laplanche a fait un haro sur... toute cette problématique-là, en introduisant toute la théorie des signifiants énigmatiques. La théorie des signifiants énigmatiques, c'est de dire que la sexualité infantile, il va y avoir une implantation des éléments énigmatiques issus de la sexualité adulte dans la sexualité infantile, c'est la théorie des séductions généralisées. La théorie de la séduction généralisée, c'est dire que l'inceste, il est là. Alors, bon. Heureusement, parce que quand il n'est pas là, c'est pire, hein. Mais après, il y a la question de savoir comment il est organisé, et s'il est organisé de telle sorte qu'on peut en sortir, ou s'il n'est pas organisé de telle sorte qu'on puisse en sortir. Le problème de l'inceste qui fait problème, ce n'est pas qu'il soit inceste, c'est qu'on ne puisse pas en sortir. C'est-à-dire qu'il soit organisé de telle sorte qu'il y a une emprise, il y a une capture, il y a une captation de l'enfant, qui fait qu'il ne peut pas se détacher de son objet. Ce n'est pas le fait que les bébés, si vous ne les séduisez pas, et s'ils ne vous séduisent pas, eh bien, on ne va pas très loin dans la relation avec les bébés, et ils en meurent assez vite. Alors, donc, troisième pan de la pénétration agie de l'objet dans la recherche, c'est dans la théorie. Donc, conclusion, vous avez affaire non seulement, je vous le dis gentiment, hein, nous allons rencontrer la question de la pénétration agie de l'objet à l'intérieur de votre compte transfert. Ça, vous y êtes prévenu, on vous l'a, vous le savez depuis belle lurette, mais vous allez aussi trouver la question de la pénétration agie de l'objet dans votre dispositif. Et vous allez aussi trouver la question de la pénétration agie de l'objet à l'intérieur de la théorie. Alors, moi, mon boulot ici, ça va être surtout de vous montrer cet impact sur la théorie, et de voir comment, d'une certaine manière, l'évolution paradigmatique des théories des 15-20 dernières années, c'est aussi une tentative de prendre en compte cette clinique de la théorie. Conséquence aussi, c'est peut-être pas évident, dans votre bibliographie, de citer au même niveau des gens qui ont écrit à 50 ans, 60 ans, des gens qui ont écrit à 30 ans, 40 ans, des gens qui ont écrit à 10 ans, et des gens qui sont à la pointe de la recherche actuellement au niveau de la conceptologie. Alors, on a quelques monuments comme ça, on a effectivement des Freud, on a effectivement des... Mais même Freud, bah, si vous prenez Freud entre ce qu'il écrit en 1895 et ce qu'il écrit en 1938, on ne peut pas le mettre ensemble. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y a 40 ans, il y a 40 ans de travail. Alors, bon, on passe. C'est déjà tellement difficile, on accepte que vous bricoliez, et que vous bricoliez votre conception en prenant un petit bout de 1905, un petit bout de 1915, un petit bout de 1928, etc., et que vous mettiez ensemble, l'important étant ce que vous produisez. Mais d'un strict point de vue épistémologique, c'est une opération qui est très très surprenante. Prenons le refoulement. Vous dites refoulement. Il faudrait dire refoulement 1892, ou refoulement 1915, ou refoulement 1923, ou refoulement 1923, parce que c'est pas le même. En 1892, Freud dit, ah, il y a une défense primaire. Tout est refoulement pour lui, puisqu'il appelle refoulement la défense primaire. Mais il n'a pas la projection à sa disposition, il n'a pas le clivage à sa disposition, il n'a pas les autres mécanismes de défense. C'est donc tout du refoulement. Mais parce qu'il appelle refoulement la défense. Après, il a fini, il dit, oui, mais enfin, quand même, c'est partout pareil. Hein. Il y a des gens qui refoulent dedans, il y a des gens qui refoulent dehors. Alors, par exemple, il peut y avoir des projections. Il y a des gens qui refoulent en retournant. Schreber, moi, un homme, je l'aime, lui, un homme. Série de retournements. Ce n'est pas moi qui l'aime, c'est lui qui m'aime. Érotomanie. Je ne l'aime pas, je le hais. Je retourne la